C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Blake Edwards, cinéaste 1922-2010, américain, hétérosexuel. Œuvre Victor Victoria, film 1982. Adaptation Victor Victoria est lui-même une adaptation d'un film muet allemand du même titre en 1933 par Reinhold Schünzel, lequel a co-réalisé une version française en 1934 sous le titre de Georges et Georgette. Le film a été adapté en comédie musicale par Blake Edwards lui-même à Broadway en 1995. Une des meilleures comédies de Shakespeare est la comédie des erreurs. Une des meilleures comédies d'Oscar Wilde est l'importance d'être constant. Un des meilleurs films de Blake Edwards est Victor Victoria. Ces trois œuvres infernalement subtiles, j'exagère un peu pour Blake Edwards, fonctionnent sur le principe du chiasme et même du chiasme devenu fou. Des personnages dont le spectateur sait ce qu'ils sont jouent à être autre chose, tandis que d'autres personnages ou bien les croient ou bien les narguent, puis les choses s'emballent, tournent, se bouleversent et se rétablissent. Derrière cette légèreté, c'est l'ordre moral coutumier qui est mis en doute, raillé, ébranlé. En fait, ces œuvres sont terribles parce qu'elles se rétablissent, non pas suivant l'ordre de la société, mais suivant l'ordre du bonheur. Et tout le monde sait que ça n'existe pas, à commencer par leurs auteurs, puisqu'ils ont écrit ces œuvres sous forme de féerie. Blake Edwards est un cinéaste fait pour le muet qui s'est très bien débrouillé du parlant. Un de ses grands-pères était d'ailleurs réalisateur de films muets. Il raffole des scènes boucanières où on renverse les tables, où on se bagarre, où on casse les assiettes, on se projette de l'eau de seltz au visage et des gags réitératifs. Ce sont les dialogues qui ajoutent du piquant à ces films qui, sans eux, seraient simplement burlesques, et Victor Victoria en est, je crois, un très bon exemple. Ce film célèbre des années 80, où une femme feint d'être un homme prétendant être une femme, a alors contribué à détendre les esprits sur la question de l'homosexualité. Je ne dirais pas que c'est un film sur la tolérance, car, et c'est une de ses finesses, il ne comprend pas une seule fois le mot. Et d'ailleurs, la tolérance, on n'en veut pas. On ne veut pas être toléré, on veut vivre. En fiction, le cinéma a tout de suite donné des rôles aux travestis, puisque aussi bien, toute comédie est un travestissement. Le Victor Victoria de Blake Edwards est, je le disais, le remake d'un film allemand de Weimar, Victor und Victoria, qui date de 1933, l'année de l'accession de Hitler au pouvoir. Dernière plaisanterie avant les camps, en quelque sorte. Victor, Victoria, c'est la victoire. Elle n'est jamais définitivement gagnée. Qui est Victoria Grant? Pour en parler, je reçois Éric Libiot, directeur des pages culture de l'Express, qui publie ces jours-ci une petite mythologie des objets du quotidien chez Harper's et Collins. Éric Libiot, à quoi ressemble physiquement Victoria Grant, Victoria?
Eh bien, elle ressemble physiquement à Julia Andrews, qui est la femme de Black Edwards, qui est une chanteuse, c'est elle qui chante vraiment les numéros de comédie musicale dans le film. C'est une actrice mondialement célèbre et reconnue et adulée pour Mary Poppins, quand même, et La Mélodie du Bonheur. C'est pas une actrice qui a vraiment joué dans énormément de très très grands films, alors c'est aussi elle qui joue à la, vous l'avez rappelé, la comédie musicale à Broadway, qu'a mise en scène donc son mari. Mais c'est une actrice extrêmement touchante, très rayonnante, très lunaire, très ensoleillée, si je puis dire, et qui va parfaitement avec le rôle de Victor Victoria, qui est sans doute le film le plus réussi de sa carrière. Mary Poppins, c'est quand même assez moyen, et la Mélodie du Bonheur, assez raté.
C'est kitsch, oui. Il faut dire qu'elle est anglaise et que son mari est américain. Elle est anglaise, hein.
Oui, alors, et dans les commentaires du DVD, il s'appelle Darling, il n'arrête pas de s'envoyer des compliments, ils sont absolument charmants, tous les deux.
Ils ont tourné beaucoup de films ensemble. Hein,
Tourné beaucoup de films ensemble, notamment Lily Darling, qui est un des autres grands films de Blake Edwards, metteur en scène très étonnant parce que il y en a assez peu dans ce cas-là. Il a touché à tous les genres, même le western. Passer du western à la comédie musicale, c'est pas rien. Également le film de guerre, le polar. C'est peut-être, faudrait vérifier, mais le seul metteur en scène de Hollywood qui a absolument touché à tous les genres, même Hawks, même tous ces grands metteurs en scène protéiformes, n'ont pas à ce point aborder les genres et toujours avec beaucoup de le sens de la finesse, vous l'avez rappelé, et de la légèreté. Moi, j'aime beaucoup Victor Victoria. C'est effectivement un film que j'ai revu avec grand plaisir.
Car il a fait du drame aussi, vous disiez qu'il a abordé il a fait le genre du... The Days and Wind and Roses.
Oui, voilà, Breakfast at Tiffany's. Bon, même si c'est pas un drame, mais c'est une espèce de chronique un peu mondaine et un peu mélancolique. Il a vraiment, et puis The Party, qui est quand même
The Party avec Peter Sellers.
Le film le plus drôle de l'histoire du cinéma du monde.
Alors, l'histoire de Victor Victoria se passe à Paris en 1934. Est-ce que on sait, Éric Libio, si Black Edwards a choisi cette date pour une raison précise, est-ce que ce serait parce que c'était la date de diffusion de la version française ou...
Oui, on sait de toute manière que c'était l'entre-deux-guerres, de toute manière. C'était à Paris parce qu'il voulait que ça se passe à Paris, parce que Paris représentait la folie de ces années-là, les années folles, évidemment. Le paradoxe, c'est qu'ils ont cherché beaucoup de lieux à Paris, ou en tout cas en France, pour essayer de tourner dans des lieux réels. Et ils ont finalement, parce qu'ils n'ont pas trouvé, c'était compliqué sans doute de trouver énormément de parce qu'il y a pas mal de plans en extérieur. Ils ont finalement tourné en studio en Angleterre, à Pinewood. Et du coup, ça ajoute au côté un peu conte du film, un peu fabriqué, un peu irréel, parce que les studios, bon, on voit bien que ce sont des studios, quoi. Il y a pas de, ils trichent pas. Et ce côté vraisemblance, illusion, est évidemment cohérent avec le cinéma lui-même et avec l'histoire de ce film.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un détail aussi, ce qui n'est peut-être pas un détail, c'est qu'il neige beaucoup dans ce film. Ça se passe en hiver et je trouve que la neige ajoute aussi à l'effet conte de Noël, conte de fées.
Il y a aussi ça et puis il y a une petite allusion au conte d'Andersen, La petite fille aux allumettes. À un moment donné, l'impresario de Julie Andrews, qui est un peu dépenaillé, lui dit qu'elle ressemble à une vendeuse d'allumettes. Évidemment, une allusion. Et puis, ce côté un peu froid, Black Edwards l'a voulu parce qu'il a demandé en contrepartie à son chef opérateur de tourner dans des couleurs excessivement chaudes, beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, et que du coup ça apportait au film une espèce de chaleur comme ça, un peu inconsciente, qui contrebalançait la froideur et qui donnait au personnage cette chaleur et cette empathie qu'on ressent dans ce film.
Et d'ailleurs, dans ces décors intentionnellement artificiels de Paris, on voit un moment passer, Éric Libio, une affichette pour le Fanny de Pagnol, qui doit être, je pense, un hommage très discret rendu par
Oui, il y a deux petits hommages très discrets dans cette première séquence, ou quasiment cette première, effectivement l'affiche de Pagnol, et puis une photo de Marlène Dietrich dans la chambre, avec un travelling très lent comme ça sur Marlène Dietrich. Évidemment, hommage clin d'œil, peut-être pas hommage, mais clin d'œil au film allemand et à l'actrice Renate Müller qui jouait dans le film allemand de 1933. Et puis, le côté aussi un peu androgyne de Marlène Dietrich, bien évidemment. Donc, tout ça participe à l'atmosphère de ce film qui joue constamment sur des faux-semblants.
Il y a aussi une allusion, là je demande aux auditeurs de m'écrire, qui est plutôt de l'ordre publicitaire, quand on voit une publicité sur les murs, une publicité morale pour Coca-Cola, et en 1934, ça m'a paru assez... Je me demande si Coca était distribué en France en 1934, là il a peut-être...
Là, vous me demandez trop, je n'en vois jamais.
Alors, dites-moi ce qui se passe dans ce film. À la première scène, on voit un lit, et on voit un jeune homme dans le lit d'un homme... d'une soixantaine d'années, disons.
Oui, ce qu'il y a d'assez étonnant mais très remarquable au premier sens du terme, c'est que le film ne commence pas par Victor ni par Victoria, enfin, en tout cas pas par Julie Andrews, par effectivement un homme qui s'avéra être l'impresario de Victoria, de Victor, qui est Carole Todd, homosexuel avéré tout de suite, qui est avec un homme dans un lit, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et on est dans le Paris, alors on a l'impression que ce sont les personnages principaux, puis finalement non, ce ne sont pas eux en tout cas les héros, même si Todd est le deuxième personnage du film. Une façon, encore une fois, de décaler le propos, de pas... La fin est exactement du même tonneau, d'ailleurs. On ne termine pas par le baiser des deux personnages, mais par une scène de musical. Et Black Edward, c'est un petit peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire, systématiquement, je vais jusqu'au bout de ce que vous pensez être la scène, et puis au dernier moment, je la retourne comme une crêpe, ou en tout cas, je commence pas le film comme on le commence d'habitude, parce que le film raconte, voilà, les faux-semblants, les identités, le fait, les clichés, ce qu'on annonce et ce qui est vrai, et cette première séquence est assez remarquable.
Et elle est suivie par la deuxième, qui est l'apparition de Victoria, qui passe une audition dans un cabaret, qui est refusée, et puis qui passe devant une brasserie, et là il y a une scène de brasserie, elle s'évanouit de faim. Oui.
Alors au début, il y a un petit hommage à Chaplin parce qu'effectivement, elle est sans le sou, donc elle n'a pas mangé depuis 15 jours. Enfin, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Mmh. Et elle passe devant la devanture du restaurant et elle voit un type en train de manger un chou à la crème et se fout de la crème partout. Et elle tombe dans les pommes et c'est effectivement une espèce de petit clin d'œil à la rue Werner de Chaplin où il y a ce genre de plan où la différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, bien évidemment. Et puis après, il y a une célèbre dans le restaurant. Un peu plus tard où
alors racontez-la nous parce que c'est une scène d'anthologie.
Oui, c'est une scène d'anthologie parce que elle vient avec un cafard dans son sac, elle commande à manger alors qu'elle n'a pas d'argent et on apprend qu'elle va mettre le cafard dans la salade de façon à partir sans payer. Évidemment le majordome, le major d'hôtel, enfin le patron du restaurant a bien vu le stratagème et lui dit que mais non, on sait très bien que ces clients-là partent sans payer, etc. Et puis le cafard lui n'en fait qu'à sa tête et remonte le long de la jambe d'une autre cliente qui elle donc pousse un grand cri et là c'est le bazar dans le restaurant et là encore une façon de Black Edwards. Alors tout se passe dans le restaurant juste au moment de la bagarre finale qui est montrée de l'extérieur en un plan fixe, très muet, très théâtral. Là aussi, Black Edwards s'amuse avec ce qu'on n'attend pas et il a une façon de détourner la scène que je trouve absolument, absolument admirable.
Alors, dans la brasserie, Victoria a retrouvé cet homme du début qui s'appelle Carole. D'ailleurs, il a un prénom épicène, mais qui est plutôt féminin malgré tout que masculin. C'est probablement une indication. On apprend qu'elle a été mariée et divorcée et il n'y a donc aucune ambiguïté sexuelle entre les deux. Et si peu que Victoria demande naïvement à Toddy, mais depuis combien de temps êtes-vous homosexuel? Il répond... Depuis combien de temps êtes-vous soprano?
Et tout est dit. Effectivement, l'intérêt, c'est pas de savoir si on est homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, genré, pas genré. L'intérêt, c'est de savoir qui on peut aimer, à quel moment et pourquoi. C'est uniquement cette question qu'on pose.
Et alors, après, il se trouve que par un concours de circonstances, et les circonstances étant que, premièrement, les vêtements de Victoria ont rétréci sous la neige et la pluie, et elle prend un costume laissé par le garçon du début de la première scène. Et puis elle s'est mise en colère et Toddy lui dit « Quand tu es en colère, ta voix baisse ». Et là, va s'en suivre
voilà, c'est
une
là
idée.
Il a l'idée du siècle. Il voit une femme habillée en homme qui parle avec une voix grave et il se dit que peut-être... Parce qu'au tout début, on a vu Victoria qui essayait d'avoir du travail, de chanter. Elle est soprano, mais elle essaye de chanter dans des cabarets. Elle n'y arrive pas. C'est aussi pour ça qu'elle est sans le sou. Et donc l'impresario, Todd, lui dit « Mais peut-être que l'idée du siècle, effectivement, de vous faire passer pour une femme qui joue un homme ou un homme qui joue une femme, au bout d'un moment, on ne sait plus. Et c'est effectivement tout le sel de ce film.
Donc l'idée, c'est que Victoria veut se faire passer pour le comte Grazinski, un aristocrate polonais qui a été déshérité par sa famille quand elle a découvert qu'il était gay. Et là, il s'ensuit une série d'aventures fondées sur des quiproquos en cascade.
Oui, alors ça c'est le principe de Black Edwards. Et si on veut revenir 30 secondes à la première scène de restaurant, le cinéma de Black Edwards, il est fondé sur le chaos. C'est-à-dire qu'il faut passer par le chaos pour redémarrer autre chose. La scène célèbre dans The Party, par exemple, à la fin avec Peter Sellers, dans une espèce de partie hollywoodienne, de fête hollywoodienne, où avec la piscine qui mousse, avec le papier toilette qui mesure des kilomètres. Voilà, c'est l'idée de dire qu'à un moment donné, tout ce qui est établi, il faut que ça se détruise pour qu'on puisse reconstruire quelque chose. C'est évidemment métaphorique, mais cette scène-là du restaurant est à l'image de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire éclater les clichés, et celui-là en est un, qu'a priori les hommes ressemblent aux hommes, les femmes aux femmes, alors qu'on peut très bien se mélanger. Une fois qu'on a tout foutu en l'air, eh bien on peut repartir sur de bonnes bases. Et effectivement, les bonnes bases de la comédie, ce sont les quiproquos, bien évidemment, avec cette idée chère à Hitchcock qui veut que vous prenez une scène où il y a une bombe dans une pièce, si le spectateur ne le sait pas, c'est une surprise quand elle explose, et s'il le sait, c'est du suspense quand elle explose. Et le principe de la comédie, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le spectateur va évidemment savoir que Victoria est une femme, mais quand son amoureux King Marchand, lui, va deviner que c'est aussi une femme. Victoria ne le sait pas, alors que le spectateur le sait. Et il y a systématiquement des quiproquos comme ça. On sait, on ne sait pas. On vous donne des informations. Et ce qui est formidable, c'est que ça fait avec une telle légèreté, une telle intelligence que on suit les films et on est très en empathie avec tous les personnages.
Je pense que ce qui aide le film aussi, je voudrais le signaler, c'est la musique de Henry Mancini, c'est une comédie musicale, il y a les chansons, mais il a fait toute la musique d'accompagnement et qui est très spirituelle.
Voilà, alors il a beaucoup travaillé avec Black Edwards, c'est évidemment le compositeur de La Panthère Rose, hein, puisqu'on n'a pas cité La Panthère Rose, mais Black Edwards est aussi le metteur en scène de La Panthère Rose. Et il y a un côté Gershwin parfois évidemment grand compositeur américain de ces années-là. Mancini, qui était un homme à tout faire, qui savait se fondre dans tous les genres, là fait évidemment un hommage aux comédies musicales et à Gershwin de ces années-là, avec une maestria, une légèreté, une prouesse absolument sublime.
Alors tout se passe principalement dans des chambres d'hôtel, des scènes de spectacle et au restaurant. Et il y a aussi un jeu circulaire dans l'hôtel où se retrouvent plusieurs personnages. Et ils se lornent, ils s'espionnent. On se croirait dans l'escalier à double vis de Chambord. C'est très très frappant, cette espèce de mise en scène circulaire autour de la cour de l'hôtel.
Oui, il y a un côté... C'est Lubitsch, hein, de toute manière. Il y a chez Black Edwards l'envie de rendre hommage à Minnelli, à ses comédies musicales, mais aussi à Lubitsch, par exemple, à Serenade à 3, où il y a aussi ce type de jeu entre trois personnages, entre deux garçons et une femme, dans des pièces, des portes qui claquent, qui s'ouvrent, cachées dans un placard, etc. Et c'est une façon évidemment aussi de rendre hommage au théâtre et au vaudeville. Hein. Vous avez cité Oscar Wilde au tout début de l'émission, même si Oscar Wilde n'est pas forcément réputé pour faire du vaudeville, mais en tout cas, de cette époque-là, de ce théâtre-là, et le théâtre étant aussi une métaphore de ce qu'on peut fabriquer dans la vie. Voilà, c'est le théâtre, vous avez cité Shakespeare, c'est le théâtre de la vie, et dans ces scènes-là, oui, il y a une façon de... En fait, on change de pièce comme on change de robe ou qu'on change de costume. Il y a une scène absolument magnifique où le garde du corps de King Marchand aperçoit Victor ou Victoria dans le lit avec son patron. Donc il pense qu'il est homosexuel, et puis il le remercie parce qu'enfin lui-même va pouvoir se déclarer homosexuel. Et tout ça se fait dans une espèce de, dans la scène, dans les portes, il défonce la porte, il change de pièce, etc. Il y a une circulation comme ça. C'est comme s'il y avait une circulation d'identité, une circulation d'identité sexuelle, une circulation d'envie qui se fait avec une finesse et une légèreté absolument formidable.
Et d'ailleurs, comme tout se passe en cascade, un peu plus tard, King Marchand, qui est un mafieux de Chicago, prend à partie un type qui est un boxeur et il apprend que c'est le champion de France. Et son garde du corps lui dit, vous inquiétez pas, il est aussi homosexuel. Une chose qui est très fine, c'est qu'on apprend souvent les choses, non pas en les voyant, mais par le regard des personnages. Par exemple, King Marchand, le mafieux du film, qui aime Victoria, se rend compte qu'elle est une femme parce qu'il va espionner dans sa salle de bain. Elle se déshabille, mais on ne la voit pas nue. On voit le sourire de King Marchand, content d'apprendre qu'elle est une femme.
C'est une des scènes les plus magiques et les plus extraordinaires du film, sans doute. Mais vous avez raison d'insister là-dessus, parce que cette idée du regard est fondamentale, non seulement dans le cinéma de Black Edwards, mais aussi dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il... Prenons par exemple la scène dont on parlait tout à l'heure sur la bagarre dans le restaurant, qui est filmée de l'extérieur, alors que n'importe qui aurait filmé de l'intérieur avec des coups de poing, des coups de pied, les gens qui tombent, etc. Prenons aussi... Donc, il la filme frontalement. Prenons aussi toutes les scènes de musical. La caméra n'est jamais sur scène. Elle est tout le temps soit frontalement devant la scène, soit frontalement devant le public. Et c'est toujours un échange de regards. C'est jamais une caméra intrusive. C'est de dire que ce qui est important, c'est le regard et la façon dont on regarde les gens. Alors parfois on se trompe, mais finalement la vérité au bout du film, c'est d'essayer de comprendre qui est qui, quelles sont les envies, quels sont les désirs des uns et des autres. Et il y a jamais de la part de Black Edwards une envie intrusive, une envie de juger par sa mise en scène. C'est uniquement frontal et uniquement le regard, comme vous le disiez dans cette scène-là, qui est important. Alors évidemment, il joue sur le champ, le hors-champ, le désir du spectateur, l'illusion, etc. Mais c'est toujours avec une distance et un recul que je trouve absolument formidable.
Le seul moment où il a moins de distance et où il juge, mais là c'est très intentionnel et c'est dans un troisième ou quatrième rôle, c'est avec les imbéciles. Et il y a un inspecteur français qui est fait l'objet d'un gag réitératif, il se fout de lui tout au long du film.
Oui, mais ça c'est la petite joke de Black Edwards qui quasiment pas tous ses films, mais évidemment dans le western c'est plus difficile, mais dans toutes ses comédies, mettait un inspecteur, enfin ou un détective privé et français, évidemment le plus célèbre étant Clouseau dans la Panthère Rose, et c'est toujours une façon, il adorait la France, Black Edward, c'est une façon aussi de se moquer et des clichés et un peu de la France. Mais il y a systématiquement ce running gag comme ça qui vient ponctuer le film et qui là aussi retourne les clichés comme une crêpe.
Nous allons entendre une des chansons du film, You and Me, interprétée par Julie Andrews et Robert Preston. La musique est donc de Henry Mancini et les paroles de Leslie Bricus.
You and me, we're the kind of people other people would like to be. Wandering free, we present the kind of picture people are glad to see. And we don't care that tomorrow comes with no guarantee. We've each other for company. And come what may, you and me will stay together.
Me harmony.
Year after year. Won't we, my dear, we'll always be you and walk this way.
Éric Libio, la moralité de ce film un peu immoral qu'est Victor Victoria est peut-être contenue dans les répliques suivantes. Tu devrais avoir honte. La honte est une notion triste inventée par les hommes pour exploiter l'espèce humaine. Tu ne crois pas à la honte ? Je crois au bonheur.
Oui, je crois que c'est le cinéma de Black Edwards, c'est aussi effectivement le film. L'important, c'est d'être heureux. D'ailleurs, la scène finale, on voit Todd qui reprend un des numéros de Victoria et qui se déguise en femme en espagnol et qui fait évidemment rire le public, oui. Etc.
Et
puis qui se casse la figure, tout ça. Bon, c'est parfois un peu outré, mais c'est assez drôle et le générique final se termine comme souvent. Alors c'est dans les années 40-50 qu'on faisait ça, évidemment plus du tout dans les années 80 où on voit les personnages avec leur vrai nom dessous. Et les personnages, ce sont ceux qui sont dans le public, c'est-à-dire on les voit rire, on les voit être heureux, on les voit pas comme dans d'autres comédies romantiques s'embrasser et partir pour un long chemin et avoir beaucoup d'enfants et se marier. On est encore dans le spectacle à la fin du film, et que le bonheur c'est aussi d'être heureux pendant le spectacle. Et je trouve que cette idée, c'est, alors je sais pas si c'est une métaphore, une métonymie, enfin de dire que le spectacle c'est le moment aussi du bonheur, c'est le moment où l'imaginaire se développe, et c'est le moment où justement l'imaginaire se développant, on peut-être prendre conscience un peu plus sérieusement de la réalité.
On pourrait dire d'ailleurs à la fin que la moralité coutumière est préservée, puisque Victoria, on découvre que c'est une femme et que le mafieux peut tout à fait légalement, si je puis dire, ou de manière assurante, vivre
oui,
avec elle.
Mais les deux garçons reviennent ensemble,
voilà,
aussi, voilà. Alors qu'ils étaient un peu fâchés, et puis finalement ils reviennent ensemble.
Voilà. D'ailleurs, c'est pour moi une des meilleures répliques du film, c'est le garde du corps et Toddy, et quand ils font connaissance, l'un dit, le garde du corps dit à Toddy, vous avez été dans l'armée, et Toddy lui répond deux ou trois fois. Éric Libio.
Ah non, ça vous fait rire, oui.
Ah oui, ça me fait rire. Éric Libio, Victoria n'a pas toujours eu l'apparence de Julie Andrews. Qu'est-ce que c'est que ce Victor ou Victoria allemand que j'évoquais au début de l'émission?
Disons que c'est un film qui ne prenait pas ouvertement le droit à l'homosexualité. Hein. C'était évidemment à cette époque-là quasiment interdit en Allemagne. Donc on prenait juste le travesti, parce que aussi dans les cabarets allemands, et on le voit par exemple dans L'Ange Bleu de Sternberg, dans les cabarets allemands, il y avait ce jeu du travesti. Mais bien que c'était personne n'était dupe. Hein. Il y avait évidemment comme ça l'idée de l'homosexualité derrière, mais elle n'était jamais ouvertement déclarée.
Et il y a eu donc une adaptation française faite par ce même Schoenzel, dont je voudrais dire que les dates sont de 1886-1954. Il a fait une version française. Quelle était l'actrice allemande? Elle ressemblait à quoi, celle qui jouait
Renate
Victoria?
Renate Müller, qui avait un visage un peu mutin comme ça. D'ailleurs, un peu comme Julie Andrews, elle a un petit visage mutin. Version française, comme souvent à l'époque, ça se faisait quasiment tout,
presque tout de suite,
hein, très très facilement. C'était Meg Le Mounier, qui était une actrice assez connue à l'époque, qui a tourné dans la version Georges et Georgette. Rien que le nom, déjà, ça donne envie de le voir.
et je crois que Charlot passe par là aussi.
Alors oui, très étonnant, mais et ça, je rends à César ce qui vous appartient, Charles, parce que vous m'avez fait découvrir Mlle Charlot, 1915, qui est effectivement l'histoire de Charlot qui tombe amoureux d'une fille et qui se retrouve dans la maison avec elle, avec la famille, et pour échapper, il y a une bagarre, je vous raconte pas tout, et pour échapper au père de cette jeune fille, il se déguise en femme et formidable, et je pensais pas qu'il allait aller jusque là, il rase sa moustache. Alors là, ouais. Charlot rase sa moustache, je me demande si c'est pas la première fois ou la seule fois où on le voit vraiment raser sa moustache. On voit Charlot déguisé en femme exactement comme dans Victor Victoria.
Je me demande si Victor Victoria ne serait pas un film qu'on devrait suggérer au gouvernement d'ajouter à son plan contre l'homophobie dans les cités.
Ah mais certainement, je pense que c'est un film qui ne fait pas de prosélytisme, évidemment, mais qui dit juste, à la fin, tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit de se tromper, tout le monde a droit d'aimer qui on veut. Et je voulais juste dire qu'il y avait quelque chose tout d'un coup qui m'a frappé, parce que c'est quelque chose qui est compris uniquement en anglais. Alors, en français, c'est homme et femme, évidemment, et en anglais, c'est male and female. Et le mot male appartient aux deux, y compris dans les deux mots. Et il y a un jeu comme ça systématiquement, une espèce d'ambiguïté déjà, ne serait-ce que dans le mot lui-même, où il y a une interaction sémantique entre male et female qu'il n'y a pas en France. Et il y a une allusion dans le film à un moment donné à ça. Et je trouve ça assez, on l'a peut-être pas assez dit, on le sent pas assez que dans la culture ou dans le mot, dans je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, dans la langue anglaise, américaine en tout cas, il y a déjà cette ambivalence et ce mot qui joue sur deux tons.
Bah, c'est aussi un film sur ce que Vigarello, dans son histoire de la virilité, dans un de ses chapitres, appelle à mon avis très bien le fardeau de la virilité. Parce que le personnage qui tombe amoureux de Victoria, c'est le prototype du macho, c'est un gros moustachu.
Il est d'ailleurs extrêmement gêné au début de tomber amoureux d'elle.
Et donc c'est aussi un film sur cette angoisse-là qui est au fond inculquée à tous les petits garçons.
Oui, et puis il y a une scène dans le lit après qu'ils aient fait l'amour tous les deux, où ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à jouer? Est-ce que toi tu vas être un garçon? Est-ce que toi tu vas être une femme? Est-ce que je vais... Il le dit à un moment donné, mais oui, je vais être gêné de l'image qu'on peut avoir de moi. Et puis finalement, les choses font que ça s'arrange. Mais il y a cette interrogation sur l'image qu'on renvoie, lui étant une espèce de mafieux, de malfrat, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais enfin bon. Donc il y a l'image, comme vous dites, du macho, c'est de cette virilité qui est mise à mal, notamment par son garde du corps qui est montré, on en parlait, comme quelqu'un d'assez costaud, que c'est lui qui fait le coup de main et qui est lui-même homosexuel.
En fait, je ne pense pas que ce soit un film qu'on pourrait laisser penser, vous et moi, depuis tout à l'heure, sur l'identité, qui au fond est une notion de flic inventée par Sarkozy, mais un film sur le courage.
Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que vous avez raison sur l'affirmation de soi, de ses propres désirs. Dans le premier baiser qu'échangent les deux personnages principaux, King Marchand dit à Victoria, Victor, je sais jamais comment l'appeler,
oui,
peu importe que vous soyez un homme, et il l'embrasse. Alors c'est évidemment un clin d'œil là aussi à certains Lemcho,
voilà.
Nobody's Perfect de la fin, mais c'est ce peu importe qui est important, si je puis dire. On s'en fiche finalement. Ce qui est important, c'est l'envie de s'embrasser à ce moment-là, c'est l'envie de faire l'amour, c'est l'envie de vivre ensemble et non pas de savoir si on est un garçon ou une fille.
Éric Libio, que vous a appris le personnage de Victoria?
Il m'a appris à revoir le cinéma de Black Edwards avec beaucoup d'intérêt. J'avais un petit peu oublié. Il m'a appris ce que je savais déjà, que l'amour peut conduire au bonheur, quelles que soient les formes qu'il prend. Et il m'a appris que on peut manger un gâteau plein de crème avec assez peu de délicatesse, mais avec énormément de gourmandise.
C'était Personnage en personne, le 59e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Vic Mackey, créé par Sean Ryan dans la série The Shield.
Comme si j'étais assis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de production Daphné Abgral. Prise de son Claire Levasseur. Recherche INA Sabine Dahuron.
De l'autre côté.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.